Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcast. Apple enthousiaste, j'ai pas encore changé le terme, malgré qu'Audrey m'a dit « Allez, je le fasse au dernier épisode ». Et je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Comment vas-tu, Audrey?
Salut Matt. Bah écoute, ça va très bien et je suis ravie de te retrouver. On est au numéro 50 quand même.
Ouais, chiffre rond, 50.
Ouais. Et en plus, on a un invité.
On a tout à fait un invité qu'on va présenter après les salutations d'usage et puis les remerciements pour les contributions, pour ceux qui nous ont encouragés avec le gros bouton jaune. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir que vous nous aidiez, nous souteniez ainsi. Et on a aussi un commentaire dans les commentaires d'iTunes, un 5 étoiles, comme on les aime bien, qui nous dit « Bonjour à vous deux, je m'appelle Pierre, je vous écoute depuis Biarritz. J'espère que vous continuerez encore longtemps. Je suis à l'écoute de votre podcast depuis le début. J'ai toujours autant de plaisir à vous entendre. Je suis un fanboy. Le terme, on l'aime moins. On a essayé Apple enthousiasme, mais en tout cas, on va essayer d'en trouver un autre de la marque Apple pour des raisons plus pragmatiques. Ce que je suis, c'est que je suis malvoyant. Et c'est bien la seule société qui fait beaucoup de choses pour l'accessibilité pendant très longtemps, en espérant qu'il continue et d'aller dans ce sens. Et là, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ben merci beaucoup, Pierre. Effectivement, il y a beaucoup de fonctionnalités d'accès à des produits Apple. Et sans autre forme de procès, on va débuter en saluant notre invité Sébastien pour parler d'ergonomie. Bonjour Sébastien.
Salut Matt. Salut Audrey.
Salut.
On va faire un épisode sur l'ergonomie. Audrey, est-ce que tu voulais qu'on fasse les actualités avant, qu'on les fasse après, qu'on parle d'ergonomie? Je te laisse aller. Là. Comme, dirige-moi.
Alors, écoute, je pense qu'on va parler de nos actualités, des actualités d'Apple.
Et puis comme ça, Sébastien pourra rebondir, tout à fait. Ben oui, WWDC 2023 annoncé, ça sera le 5 juin. Tu as même fait une annonce et produit un wallpaper que j'ai vu passer sur ton compte Twitter, Audrey. Qu'as-tu et qu'attends-tu de ce WWDC?
Ben écoute, déjà, résoudre les bugs, ça serait bien, parce que je trouve que là, avec les dernières mises à jour, il y a pas mal de choses qui buguent, notamment des fonctionnalités un peu plus avancées, genre sidecar ou commande universelle. Juste au moment où je mets à jour ma formation sur ce sujet, la mise à jour qui sort crée des bugs pas possibles, donc pas de bol. Mais j'aimerais bien sûr, des nouvelles fonctionnalités, mais j'aimerais bien qu'on retrouve un peu vraiment l'équilibre qu'on avait, la stabilité qu'on avait, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans. J'ai l'impression qu'on enchaîne un peu, ça s'entasse un peu les bugs et du coup, j'aimerais bien que les choses soient remises au carré au niveau logiciel, ça serait bien.
Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui déconseillent de faire la mise à jour vers 16.4.
Mais en même temps, ça corrige des éléments de ces trucs, alors on est un peu pris entre l'arbre et les cordes.
En fait, faut attendre quand même, tu peux attendre quelques jours. Au pire, 15 jours, je pense que c'est pas très très grave.
C'est ça.
Mais au moins, ça permet à Apple, entre-temps, d'avoir réglé le souci. Ouais, je saute jamais sur les mises à jour, moi. J'attends toujours un petit peu d'avoir les retours des sites spécialisés, genre « Attention au bug !» Ok, j'ai bien fait de pas la faire. Ne pas faire les mises à jour le jour J, mais 8-10 jours après, je dirais.
Quelques temps après, quand il y a la point 1 qui sort. Par exemple.
Qui corrige la patch qui devait corriger des trucs. C'est des poupées russes, ces histoires-là. Je vous avoue que moi, je travaille dans le domaine de la tech et puis avec beaucoup de développeurs. Et puis, il y a une accélération, une mise à jour, langage, d'accélération, plateforme, serveur. Tout me force à aller vers des affaires plus clés en main parce que de plus en plus compliqué. Les mises à jour un peu partout. Puis, bien évidemment, en tant que famille bien branchée, numérique, quand il y a des mises à jour d'Apple, alors il y a Marlène en haut qui aligne les iPads, qui aligne les iPhones, les Mac et tout. Puis là, on commence les mises à jour. On a pour une bonne demi-heure de démarrer tout ça, les Apple Watch. Et c'est vraiment une folie. Il faudrait simplifier ça. En tout cas, simplifier ce type de mise à jour-là, puis après ça aussi. Mieux tester, on va dire. Mais il y a une accélération dans le niveau de conférence.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la conférence mondiale des développeurs 2023?
L'annonce Wahoo.
Qu'est-ce que ça va être, à
peut-être,
ton avis?
Oui, Ça fait des années que j'entends parler d'un casque de VR ou des lunettes connectées. On en a vu quelques-unes chez Bose, justement, qui permettaient d'avoir la sortie audio dans les branches des lunettes.
Mmh. Ouais.
Ce genre de
choses. On a fait un épisode spécial sur le casque soit ARVR qu'Apple devrait sortir. Donc, si tu l'as pas écouté, on a vraiment beaucoup, beaucoup débattu sur ce sujet. Avec un invité aussi, avec Guillaume. Et c'était intéressant d'avoir tous ces points de vue différents et sur l'utilité du truc, le marché que ça va cibler, etc. Donc, ouais, toi, t'attends l'effet waouh. Bon.
Voilà.
Et toi, Matt?
Ben oui, j'ai hâte de voir. Je suis assez intrigué par rapport à toutes les rumeurs qu'on entend parler. À ce propos, Tim Cook a parlé dans les médias, notamment des rendements de la compagnie, et parle aussi beaucoup d'éléments qui vont arriver. Et puis, il y a un journaliste qui l'a attrapé dans un des médias et a demandé à Tim Cook, écoute, au niveau du casque VR, j'aimerais juste te rappeler que quand les Google Glass sont sortis, tu avais dit, en fait, que tu voyais pas vraiment d'avenir à ça, dans le fond, au niveau de l'interface, parce qu'on va parler d'interface, on va parler un peu d'ergonomie, que tu pensais que les lunettes n'étaient pas une décision intelligente de Google, que d'un point de vue utilisateur, c'était très intrusif, qu'il fallait pas pousser la technologie et mettre les utilisateurs à l'arrière-plan. Bref, on a remis dans la face à Tim Cook ce qu'il avait dit sur des lunettes de VR à une certaine époque. Et Tim Cook, très humble, on commence tout de suite par une petite réflexion intéressante, qui dit « Ma pensée évolue toujours. Steve m'a bien appris de ne jamais se marier avec des convictions d'hier. » Pour toujours, si on vous présente quelque chose de nouveau qui dit que vous aviez tort, admettez-le et allez de l'avant au lieu de continuer à vous accroupir et dire pourquoi vous aviez raison. Fait que bref, oui, j'ai hâte de voir la WWDC et puis Tim Cook dire à quel point ils ont trouvé un moyen de faire le casque mieux que les autres. À théorie, le casque devrait sortir. Ils ont dit aussi qu'ils allaient pouvoir apporter une contribution significative par rapport à la réalité virtuelle et qui, ils allaient effectivement, encore une fois, démarquer dans un nouveau domaine et que, habituellement, Apple est toujours sceptique, mais lui, il a dit, si vous faites quelque chose qui est sur le bord, il y a toujours des sceptiques. Andy, il veut dire que quand vous faites des choses qui sont un petit peu discutables, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont critiques. Fait que, bref, moi aussi, j'attends la WWDC pour ça, mais peut-être qu'on va se faire surprendre avec un nouvel appareil, ou peut-être pas. Je l'ai mis dans les notes de l'émission. Apple a déposé un brevet pour avoir, bon, on l'a vu dans d'autres compagnies, mais Apple, lui a déposé le brevet pour avoir un petit écran sur les AirPods. Oui, c'est une actualité de 9 to 5 Mac qui nous relaie ce brevet et qui essentiellement serait un écran tactile qui serait greffé au futur boîtier. Alors là, on y voit dans le brevet comment ça pourrait se réaliser, comment ça pourrait s'afficher sur un boîtier. Et puis certains diront, ont tout de suite poussé la supposition au fait que Apple avait retiré l'iPod. Puis c'était peut-être une possibilité de le voir revenir sous une autre forme pour qu'on puisse rendre les écouteurs un peu plus autonomes du téléphone. Alors, je trouvais ça intéressant de vous proposer ce nouveau brevet. On sait qu'ils en déposent beaucoup. C'est pas toujours forcément pour sortir des produits. C'est des fois aussi défensif. C'est des fois aussi des bonnes idées, mais qu'ils n'ont jamais plus tard. Fait que bref, qu'en pensez-vous?
Vas-y, Sébastien.
En espérant que ça soit pas le même flop qu'AirPower, qu'on a tous attendu.
Eh oui. Moi, de mon côté, rajouter des écrans sur tout ce qui existe. On en a parlé dans l'épisode précédent avec l'idée de mettre un écran sur le HomePod, ouais. HomePod Mini. Et en fait, j'ai un peu la même réflexion, c'est qu'il y a un moment, je suis pas pour avoir des écrans partout. Alors, sauf si bien sûr le boîtier des AirPods devient un iPod sur lequel on pourrait envoyer de la musique. Mais on a déjà ça dans l'Apple Watch. On peut déjà mettre de la musique dans l'Apple Watch et utiliser nos AirPods et pas avoir besoin de l'iPhone, ça serait peut-être pour une catégorie d'utilisateurs qui ne veulent pas d'Apple Watch, je sais pas. Pourquoi pas, on va voir. Mais c'est vrai que des brevets, ils en déposent tout le temps et il y a toujours des idées. Enfin, en fait, je pense que n'importe quelle idée qu'ils peuvent avoir potentiellement, ils déposent un brevet comme pour être sûr d'être protégé. Et ouais. Bon, je pense que, les sites de rumeurs ont pas grand chose à se mettre sous la dent.
Effectivement.
Et du coup, on se plonge dans des trucs pas possibles. Bon, on verra.
Mais on s'aperçoit aussi que depuis la transition entre Steve Jobs et Tim Cook, on voit qu'il y a de plus en plus de rumeurs et qu'elles sont beaucoup plus étayées avec des plans, avec des brevets, ce genre de choses qu'on ne voyait pas à l'époque.
Ouais.
Et ça alimente derrière.
Ouais, peut-être à la défense de Tim Cook, à l'époque, il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas autant de façons de communiquer, il n'y avait pas autant de façons d'espionner aussi à certains égards. Et puis la compagnie n'était pas aussi grosse qu'elle l'est, mais plusieurs milliers de milliards. Alors, à la défense de Tim, ça doit pas être facile d'essayer de contrôler autant de personnes pour pas que l'information sorte. Surtout que des fois, les usines sont dans des pays où ils peuvent pas vraiment avoir des contrôles comme ils veulent. Et c'est tout le gouvernement qui a un contrôle par rapport aux gens en place. Fait que, bref, à suivre. Audrey, est-ce le moment d'aborder, puisqu'on parle d'ergonomie des HomePod, serait-ce le moment de parler d'ergonomie tout court?
Bah écoute, ouais, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un épisode sur l'ergonomie. Tu sais que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment l'aspect usage et utilisation de nos produits. Et l'ergonomie, du coup, à la fois physique, si on travaille à un bureau, il y a l'ergonomie, bien sûr, physique, notre chaise, du bureau et tout ça. Et il y a aussi l'ergonomie
logiciel.
De l'interface, l'interface utilisateur. Quand on clique là, ça fait ça. Enfin, en fait, tout ça, c'est des choses qui nous paraissent simples, mais en fait, c'est des choses qui sont réfléchies très, très longuement. Oui. Quel va être instinctivement ce que la personne va faire pour faire ça. Voilà, moi, je trouverais ça hyper intéressant d'aller faire ma petite curieuse chez Apple et de voir. Je pense qu'il doit y avoir une équipe dédiée à ça et j'aimerais trop, en fait, savoir ce qu'ils font, comment ils envisagent de nous présenter une nouvelle appli. Qu'est-ce qui fait qu'un produit est intuitif? Et j'avais envie de parler de tout ça, donc c'est pour ça qu'on a invité Sébastien. Je vais te laisser te présenter au niveau professionnel, peut-être pour nous dire pourquoi on t'a invité toi.
Et pas Johnny Hive.
Ouais, on choisit bien.
Alors moi, c'est Sébastien, du coup. Donc j'ai été diplômé en ergonomie à la faculté d'Aix-en-Provence en 2018. Donc ça fait plusieurs années maintenant, mais j'ai jamais vraiment complètement exercé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'hypocrisie et énormément de confusion justement dans le métier et ça m'a un peu dégoûté, on va dire. Du coup, je me suis complètement recyclé. J'utilise toujours les notions techniques, on va dire, de l'ergonome, mais à l'horlogerie.
Ok.
Donc je me suis pris de passion de quand j'étais gamin en horlogerie et j'ai la chance aujourd'hui d'exercer dans ma passion.
Et donc, tu n'as pas d'Apple Watch?
Ah, si, ok.
Excellent.
Mais comme vous l'avez pu le dire dans votre épisode, justement, est-ce que l'Apple Watch n'est pas trop intrusive? Pour moi, beaucoup. Parce que j'ai une famille qui est extrêmement prolixe, donc qui envoie beaucoup de messages. Et avoir le poignet qui vibre toutes les 15 secondes, c'était plus possible. De la même chose, c'était devoir la recharger. En tant que passionné d'horlogerie, devoir recharger sa montre, pour moi, c'est une hérésie. Ce n'est pas une vraie montre. Ça a son utilité, notamment en termes de santé. Je le vois régulièrement sur Twitter avec ton compte Audrey, où tu remplis régulièrement tes anneaux, et tu en es fier et je te le félicite. Parce qu'il faut savoir quand même se maintenir en bonne santé. L'Apple Watch a aussi permis de sauver de nombreuses vies, même si beaucoup de gens pensent que c'est un outil marketing. Pas du tout. Ce sont des histoires vraies et il y a beaucoup de personnes qui ont pu être sauvées grâce aux appels d'urgence automatiques. C'est à peu près tout. Après, pour ce qui est de l'ergonomie, on va essayer d'en parler simplement parce que ça s'appuie sur beaucoup d'études, en psychologie cognitive notamment. J'en ai dirigé quelques-unes. Et j'ai participé aussi à quelques études. Je peux parler, par exemple, d'une étude qu'on a menée avec l'université d'Aix sur la dyslexie, l'utilisation du logiciel Antidote.
Ok.
Donc, qui est québécois.
Québécois, ouais. La compagnie Druid.
Exactement. Que j'utilise tous les jours.
Qui est génial. Leur logiciel est vraiment génial. Il est simple d'utilisation. Il s'est beaucoup amélioré.
Ouais, c'est ça.
Faut dire ce qu'il est. Beaucoup. Nous, on avait travaillé à l'époque sur Antidote 9, Donc là, ils en sont 10 ou 11, si ma mémoire est bonne, voire 12 même.
11, ouais, c'est 11 que j'ai. Peut-être que, peut-être qu'il y en a, il y en a d'autres que j'ai pas, mais c'est le 11. Alors, t'as fait.
On a des mises à jour très régulières, en tout cas.
Oui, bah, comme le reste de nos produits. alors, donc, t'as étudié dans le domaine, t'as mené beaucoup d'études. Et ben, avant peut-être de parler des études, avant de parler peut-être des produits, tout ça, j'aimerais t'entendre sur qu'est-ce que l'ergonomie, étant donné que tu as travaillé dans le domaine. Quand on parle d'ergonomie, ouais. Ça englobe quoi exactement?
Alors, ça va sur beaucoup de choses.
Okay.
On peut parler d'ergonomie de conception ou d'ergonomie prospective. Ça intervient en amont. Donc, quand on réfléchit à comment concevoir le produit, comment les gens vont ensuite l'utiliser. On peut aussi atteler l'ergonomie à tout ce qui va être santé au travail. Donc, par exemple, la création de chaises, de matériel informatique, les souris par exemple. On peut aller aussi dans l'ergonomie donc de l'interface utilisateur, ce qu'on peut rapprocher, voire même englober avec l'UX design. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très vaste et il nous faudrait plusieurs heures.
Ben, est-ce qu'on peut prendre un exemple de la souris d'Apple qui fait beaucoup débat, la Magic Mouse?
Ouais.
Beaucoup de gens se plaignent d'avoir mal à la main au bout de quelques heures de travail. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette souris?
Alors, c'est une souris avant tout design. Fonctionnelle, mais à ne surtout pas utiliser pendant plusieurs heures tous les jours. Tout simplement parce que l'anatomie de la main fait que quand on remonte la main et qu'on pose le poignet, comme ceci, toute la journée, en gros, on a ce qu'on appelle des zones d'extension articulaire. C'est très compliqué, c'est de l'anatomie, mais votre articulation n'est pas faite pour supporter ce type de positionnement toute la journée. C'est pour ça que les formations, les études ont permis de développer les souris droites, qui elles vont permettre de ne pas justement venir pincer le canal carpien et de garder la main et le poignet alignés à l'avant-bras. Et éviter justement la fatigue.
À cet égard, la gamme Ergo hein, chez Logitech qui est excessivement intéressante, où ils étudient et ils raffinent à chaque fois le modèle d'itération en itération en termes de souris, en termes de clavier. D'entrée de jeu, tu parles de souris. Est-ce que je me trompe ou c'est rare qu'il y ait des produits ergonomiques chez Apple au niveau physique? Ça, je viens de le préciser. Et que c'est souvent le design qui l'emporte, d'après ton expérience. Moi, c'est ce que je vois, en fait.
Je suis totalement d'accord avec toi. Ça va être beaucoup du design, mais l'ergonomie, sur le long terme, elle n'y est pas. En termes d'ergonomie physique, on peut le voir avec les ordinateurs portables. La plupart des gens qui vont utiliser leur portable en mode station, ils vont le réélever sur un support avec un écran déporté et un clavier et une souris qui va être justement beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus agréable à travailler. On voit avec les claviers en V qui reprennent parfaitement, vous voyez, la position des épaules et permettent de poser droit les avant-bras et les poignets.
Effectivement, c'est souvent le design qui l'emporte chez Apple, au grand plaisir de certains, au grand désarroi d'autres. Mais comment ça se fait qu'on le sait et qu'on continue à aller vers des choses qui sont plus ou moins ergonomiques, mais qui sont toujours design et qui, en bout de ligne, ben, visiblement, peut-être peuvent blesser les gens au niveau de la souris, peuvent aussi blesser les gens au niveau du clavier, puis importable, ben, on se penche toujours un peu lourd. Alors bref, c'est vraiment le design qui l'emporte. Est-ce que tu as une analyse par rapport à ça au niveau de chez Apple?
Alors, il va pas y avoir que le design. Il va y avoir aussi, par contre, tout ce qui va être leur interface. Elle est extrêmement réfléchie et extrêmement intuitive. J'ai vu la différence.
Est-ce qu'on peut, si tu veux bien, parler matériel dans la première partie et puis après, par rapport à l'interface logicielle, parce que j'ai pas mal de questions sur le matériel. Et notamment, regardez ce que je vous ai trouvé. Regardez.
Oui. Ouf.
Est-ce que vous vous souvenez?
Alors, pour ceux qui nous écoutent en audio, parce qu'on est un podcast audio, Audrey nous présente la fameuse souris bicolore qui a sauvé, en fait, la marque à quelque part parce que ben Steve Jobs revenait et ben le iMac est arrivé, mais il est arrivé avec une sapristi de souris qui était pas du tout ergonomique, ronde, oui, effectivement. Et ben il me semble que c'était plutôt compliqué, puis au niveau de l'ergonomie, c'était pas ça. Hein.
Pas du tout ça.
Ce qui est drôle, c'est que moi, en tant que à l'époque de cette souris, j'étais maquettiste, infographiste. Donc le syndrome du canal carpien, c'est quelque chose dans notre métier qui est très fréquent. Et en fait, cette souris, quand tu l'utilisais, donc c'est vraiment juste une une petite boule, enfin un petit rond en fait, qui est vraiment, même moi qui ai des petites mains, elle est quand même très petite, et on la tenait comme ça, on la tenait sur les côtés avec le pouce et l'annulaire. Et on cliquait comme ça, mais on était très crispés toute la journée dessus. C'était vraiment... Je pense que ça a créé des syndromes du canal carpien par milliers. Bon, moi, j'utilise une Magic Mouse tous les jours. Après, je fais des pauses, je vais faire un tour dans le jardin. Voilà, je suis plus accro à l'écran comme j'étais pendant très longtemps. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a une petite évolution quand même chez Apple entre la... la souris dont on vient de parler et la Magic Mouse, mais c'est clair qu'il faudrait qu'il se penche plus sur l'ergonomie. Et il y a un autre truc qui m'a toujours gêné, c'est... moi, j'ai un iMac et tous les iMac que j'ai eus, le fait qu'on ne puisse pas régler la hauteur de l'écran, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que moi, j'ai dû adapter la hauteur de ma chaise pour avoir le regard un peu au-dessus de du haut de l'écran, parce que c'était ça les conseils qu'on devait suivre à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment un problème que le design, quand même, je pense que même eux le savent, que le design passe avant l'ergonomie. Et je pense que c'est pas le seul produit, en fait, enfin, les seuls produits qui posent problème. Et en tout cas, voilà, la hauteur de l'écran aussi, c'est un problème. Et comme tu disais, Sébastien, oui. Ceux qui ont des MacBooks, ils le surélèvent généralement s'ils travaillent dessus toute la journée, quoi.
Exactement. Ça peut être problématique, justement, avec les iMac. Chose qui me semble qu'ils ont corrigé avec le studio, l'écran studio.
Oui, bah en fait ils l'ont corrigé parce qu'on peut le bouger un peu, mais en plus, tu peux acheter un support VESA à quelques centaines d'euros supplémentaires. Parce que ça aurait été c'est trop facile de mettre des vis dedans, là, comme tout le monde. Non, non.
Mais non, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas faire d'ergonomie sur le matériel. Ils ne peuvent quasiment pas, hormis sur les iMac. Pouvoir ajouter le réglage en hauteur, mais aussi un peu plus d'inclinaison, ils ne peuvent pas. Là-dessus, parce qu'il faudrait prendre en compte beaucoup de différences morphologiques. Audrey, on n'a pas la même composition, comme tu n'as pas la même composition que Matt. Moi, par exemple, selon le métier que je vais exercer, je vais être plus sujet aux accidents de travail, parce que je suis gaucher. Parce que beaucoup de matériels sont conçus pour les droitiers. Et on le voit avec l'Apple Watch. Même si on peut faire basculer l'écran et la basculer en mode gaucher pour la porter à droite. Mais elle est techniquement conçue pour être portée à gauche. Bon, ça ne me gêne pas parce que je porte à gauche. Mais on s'aperçoit qu'il y a trop de différences en termes morphologiques pour pouvoir créer une solution qui va s'adapter à tous en termes matériels. Ils veulent continuer justement à vendre des portables, à vendre de produits. Ils ne peuvent pas s'aventurer, ça leur coûterait beaucoup trop cher. Et le produit de revient à l'arrière, ils sont catastrophiques.
Ouais, ils peuvent pas. Attends, je pense que... Ok, alors sur les portables, je suis d'accord que, de toute façon, un ordinateur portable, c'est un ordinateur portable. Après, tu peux le mettre sur un support, le problème est réglé. Par contre, les ordinateurs de bureau, que ce soit les écrans ou les iMac, je pense qu'ils veulent pas. Ils veulent pas, c'est tout. Le design passe avant tout. Franchement, faire coulisser l'écran avec un système en plus, c'est quand même censé être les meilleurs en termes de design. Quand on voit... J'ai le vieil iMac, là, avec l'iMac tournesol, où l'écran pouvait s'incliner, se lever, se mettre... Franchement, quand je vois ce pied, il est là-bas. Je le regarde, là, quand je vois le magnifique travail d'ingénieur qui a été fait sur ce pied, je me dis, ils peuvent le faire. Ils pourraient. Ils ont les meilleurs... Enfin, voilà, s'ils ont pu le faire avec l'iMac tournesol, je vois pas pourquoi ils pourraient pas trouver une solution. Donc, voilà, quand j'entends ils peuvent pas... ils veulent pas. Ils veulent pas, en tout cas, pour le matériel de bureau... Ils veulent pas. Pour moi, c'est clair. Quoi.
Ouais. C'est certainement aussi une question de coût-bénéfice. Aussi. Le pied du tournesol devait coûter cher à fabriquer. Un simple pied en aluminium, ce qui fait qu'en bout de ligne, ça leur coûte moins cher en disant qu'ils peuvent pas s'adapter. Ouais. J'essaye de les défendre. Hein. C'est pas facile. Ouais. Hein. Vous me rendez pas ça facile.
L'iMac tournesol, je pense qu'à inflation égale, il devait coûter le même prix que l'iMac d'aujourd'hui. Donc, je pense que tu te trompes.
On va pas très loin.
Bon, alors, au niveau matériel, on s'accorde pas mal tous pour dire que c'est pas le top. Je pense que effectivement, comme vous, ils pourraient le faire. Quand on voit la diversification qu'il y a dans les bracelets, les cadrans, les choses comme ça au niveau matériel, je me dis que s'ils sont capables de faire une si belle diversité design pour les Apple Watch, ils devraient être capables de faire ce genre de diversité-là au niveau matériel. Bon. Alors, 1-0 pour l'ergonomie et 0 pour Apple au niveau matériel. Est-ce qu'on a fait le tour un peu pour le matériel?
À peu près, oui.
Oui, on va pas parler du syndrome de la tête baissée à cause de l'iPhone. Ça aussi, je pense que les ostéopathes et tout, ils voient les ados arriver. Là, je pense qu'ils râlent aussi. Mais bon, après, c'est assez compliqué.
Les inflammations au niveau des tendons des pouces.
Ah oui, aussi. Oui, effectivement. Mais à ça, je me dis qu'à quelque part, on est peut-être en train de corriger avec les téléphones. Avez-vous remarqué, en fait, dans les endroits publics, maintenant qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de monde qui tient leur téléphone à l'oreille, ce qui fait qu'au niveau des bras, on a peut-être amélioré un truc, parce que les gens, maintenant, ils nous partagent allègrement toute leur vie avec leur haut-parleur dans les magasins, dans les boutiques. Et au niveau ergonomie, je me dis qu'il y a peut-être une avancée, peut-être qu'on a résolu un problème en maintenant comme ça le haut-parleur et en partageant à tout le monde ça. Non, OK, c'est beau. J'ai essayé, hein, je pense que ça marche.
Et cette position-là, avec la position... En fait, ma nièce, quand elle était, il y a quelques années, elle avait déjà un iPhone et elle était tout le temps avec son iPhone collé à l'oreille.
En fait, Audrey est en train de mettre le haut-parleur seulement collé à l'oreille et l'iPhone est à l'horizontale. Hein, faut bien comprendre un peu.
Et en fait, elle me dit, bah oui, j'écoute mes messages audio, mais je veux pas déranger. Et je trouvais ça très, très. Il y a beaucoup d'ados qui font ça. Bah déjà, je pense qu'ils veulent pas mettre sur haut-parleur pour pas qu'on entende leur message audio, ce qui est tout à fait normal. Mais elle m'a dit non, je veux pas vous déranger, donc j'écoute discrètement. Et à Noël dernier, il y a pas mal d'ados dans ma famille, et ils avaient tous un écouteur dans l'oreille, mais un seul. Et ils étaient 3-4 comme ça. Je dis, mais vous faites quoi là? On est au FBI ou quoi? Qu'est-ce que vous faites avec votre oreillette? On est en train de fêter Noël là? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce que les téléphones sont mis dans une boîte pour les repas de famille. Donc, ils mettent un écouteur dans l'oreille pour voir s'ils ont quand même des notifications. Et pour écouter à l'audio les SMS qu'ils reçoivent. Ils sont malins, hein?
Et tu vois, ils ont résolu un problème d'ergonomie. Ils n'ont plus à se pencher. Ils écoutent.
Ouais,
c'est ça.
Moi, ça me rappelle quand j'étais ado. Ou pour ne pas se faire choper par le prof. À ceux qui nous écoutent, le faites pas. On passait l'écouteur dans le pull, puis dans la manche. Et on mettait la main.
Ah oui, j'écoutais de la musique comme ça.
Dans la main et la main dans l'oreille.
Malin.
Ah, on le fait tous.
Bon, on s'éloigne un peu de l'ergonomie, on rit un peu. Bon, au niveau de l'ergonomie physique des appareils, c'est pas ça. Mais ce qui nous intéresse, surtout Audrey, c'est l'ergonomie au niveau des interfaces. Et c'est un truc qui nous passionne un peu tous. Et d'ailleurs, la WWDC devrait nous montrer d'autres éléments d'interface qui auraient sûrement été pensés. Et par quoi veux-tu commencer, Audrey? Parce que c'est ton dada. Alors, je te laisse.
Alors, c'est mon dada parce que la première fois que j'ai utilisé un Mac, j'avais 19 ans, je crois. Et en fait, ce qui m'a vraiment provoqué un coup de cœur, c'est l'interface utilisateur de macOS 9. À l'époque, je ne pense pas qu'on était encore à macOS 10. macOS 9, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est simple à utiliser. À l'époque, il y avait vraiment, donc ça fait quand même 23 ans, à l'époque, il y avait vraiment cette simplicité liée à l'interface. Donc, je ne savais pas encore que c'était de l'ergonomie, mais en tant qu'utilisatrice novice, le coup de cœur que j'ai eu pour le Mac, c'était grâce à ça. Grâce au fait que tu prends ton fichier, tu le déplaces, c'est fluide, c'est net, tu vas là dans le menu. Bon, alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais l'interface utilisateur, pour moi, c'est ce qui fait qu'une fois qu'on aime une interface utilisateur, on va renouveler le produit. Et parce qu'on prend plaisir à l'utiliser. Donc, j'avais hâte qu'on parle de UX, du coup, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Voilà, d'interface utilisateur et comment ils font. Moi, je serais très curieuse de savoir comment ils font pour savoir ce que, intuitivement, quelqu'un ferait pour utiliser un produit ou un logiciel.
Ah ben, on va y répondre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques différences entre l'ergonomie anglophone et l'ergonomie de langue française. Donc il y a eu toute une série d'études qui ont abouti à la création de divers critères. Ces critères ont été ensuite transposés en langue française, ce que j'avais marqué dans les notes de l'émission, qu'on parlait justement les psychologues Bastien et Scapin. Rien à voir avec les fourberies, mais on retrouve beaucoup de choses sans logique. Je peux parler du guidage. Par exemple, ça va être si je cherche le Wi-Fi, où est-ce que je vais aller? Ça va être paramètres, ça va être réseau. Ça va parler à tout le monde. On va avoir la charge de travail. Est-ce que le fait de chercher un sous-menu en particulier va me demander beaucoup de réflexion, beaucoup d'étapes pour y accéder? On peut, dans la charge de travail, on peut comptabiliser tout ce qui va être notion d'efficacité et d'efficience, deux notions complémentaires, mais différentes.
Alors, c'est quoi l'efficacité versus l'efficience?
Alors, l'efficacité, c'est est-ce que j'ai atteint mon but? L'efficience, c'est en combien d'étapes? Est-ce que si je le fais en 7, est-ce que je peux le faire en 4? Si j'arrive à le faire en 4 au lieu de 7, c'est plus efficient pour atteindre l'efficacité. On peut avoir aussi ce qu'on appelle le contrôle explicite. C'est ce qu'on a, par exemple, sur le Mac, quand vous affichez un menu et que vous avez la surbrillance quand vous déplacez la souris. Mm-hmm. Au moins, quand je clique, vous voyez, ça fait un rebond, je sais que j'ai cliqué, même si j'ai le retour sur le trackpad ou sur la souris. On va avoir, par exemple, l'adaptabilité. Donc, c'est, moi, je sais m'en servir, mais est-ce que ma grand-mère va pouvoir arriver à le faire aussi?
Oh là, ça doit être un critère assez complexe.
Ouais, je confirme. Qui est très difficile à appliquer, qui se définit en beaucoup, beaucoup de sous-critères. Mais pour rester simple, c'est il faut que n'importe qui puisse y arriver. Que ce soit un enfant de 5 ans, un adulte habitué à s'en servir, ou une personne âgée. En gros, qui s'adapte à tout le monde. On va avoir aussi la gestion des erreurs. Est-ce que j'ai fait une bêtise, je peux revenir en arrière? C'est ce qu'on avait au début sur les ordinateurs, c'est une fois qu'on avait supprimé le fichier, on ne pouvait plus le récupérer. D'où ensuite l'apparition de la corbeille avec un cache qui nous permettait, si jamais on s'était trompé, de récupérer le fichier. Ouais. On peut avoir aussi l'homogénéité. Ça, j'ai vu, mais alors, beaucoup de choses aberrantes. Je peux les citer et je vais éviter de citer la marque, mais c'était pendant mes études de master. On devait faire un travail, justement, récupérer un site internet, lister les critères qui n'étaient pas appliqués pour ensuite créer une version corrigée. Et on s'était aperçu sur un site horloger, je ne citerai pas, que l'entête de la page était en français, la description du produit était en espagnol, et le prix était en base britannique.
Bah, c'est...
Niveau homogénéité, on est moyen.
Ouais, mais en même temps, ça parle à tout le monde, même si ça parle à personne.
Et est-ce que dans les critères d'ergonomie d'interface utilisateur, il y a la prise en compte de l'expérience de l'utilisateur? Est-ce que...
Alors non.
Normalement non?
Non, parce que ça doit être pensé de sorte à ce que, même si vous n'en êtes jamais servi, ça doit être instantané. Vous savez que vous prenez un iPhone, vous voulez envoyer un mail, vous cliquez sur mail. Vous voulez envoyer un message, vous cliquez sur message. Il ne faut pas que la personne, quand elle va utiliser le produit, il ne faut pas qu'elle ait à réfléchir. Il faut qu'elle aller dans les réglages. Il faut qu'elle trouve tout de suite les réglages.
Alors, les logiciels qui se veulent professionnels et qui ont une interface plus aride, c'est parce qu'ils ont juste mal fait leur travail d'ergonomie.
C'est pas une question d'avoir mal fait leur travail. Ils l'ont bien fait pour des personnes qui ont l'expérience de leur produit. Okay. On le voit par exemple avec la suite Adobe. Si vous avez su utiliser Photoshop 6, vous saurez utiliser le dernier Photoshop.
Okay. Mm-hmm.
Là, on reste quand même dans une bonne homogénéité entre la version de base, d'origine, et la version actuelle. Les choses n'ont pas énormément changé, ils ont essayé de simplifier un petit peu, mais c'est quand même très compliqué.
D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, il y a quand même deux écoles, c'est-à-dire les logiciels grand public et les logiciels professionnels, où là, ils vont moins se casser la tête parce qu'ils vont se dire... À partir du moment où tu as fait une formation ou à l'école, tu as appris à utiliser Photoshop, dans 5 versions, tu t'y retrouveras toujours. Et voilà. Donc, je pense, ça me paraît logique. Et c'est plus clair que l'expérience de l'utilisateur, enfin, les années d'expérience.
Par exemple, je l'ai vu récemment. J'avais mon vieil iPhone 7 qui prenait la poussière. Ma grand-mère avait cassé son téléphone portable. Je lui ai donné. Je lui ai expliqué, je lui ai montré deux fois comment s'en servir. Terminé, elle n'a plus besoin.
Elle avait quoi comme téléphone?
Elle le voit. Un vieux Samsung à clapet.
Ok. Et puis, est-ce qu'elle a trouvé ça plus simple, l'iPhone, bien qu'il soit vieux, par rapport à son clapet?
Ah oui, clairement.
Okay.
Elle prend le téléphone, elle voit l'écran qui s'allume, elle appuie sur le bouton, il est déverrouillé. Elle veut téléphoner, elle reste appuyée sur le bouton Home, elle le dit appeler, et ça appelle.
Au niveau de l'ergonomie, j'imagine que l'iPhone, l'iPad, en fait, de toucher l'interface avec ses doigts, c'est mieux pour l'homogénéité, l'adaptabilité, ces concepts-là, parce que c'est plus concret que déporter sa main sur une souris, par contre, par exemple, et voir un curseur qui bouge sur une autre partie en dehors de ta main. J'imagine qu'au niveau ergonomie, c'est beaucoup mieux un écran tactile.
Alors, on voit qu'il y a une incohérence là, par contre, chez Apple, c'est que les Macs ne sont toujours pas tactiles. Quand vous prenez une personne qui a l'habitude de l'iPhone, qui a d'habitude de l'iPad, comme tu dis Matt, de toucher l'interface, d'avoir par exemple avec 3D Touch ce retour haptique, même avec Haptic Touch, ne pas pouvoir justement toucher l'écran de son Mac, voir les produits qui s'ouvrent, oui, ça crée une incohérence. Même si c'est bien conçu, qu'avec les Mac maintenant, on a quand même le retour haptique au niveau du trackpad, c'est clair que c'est pas pareil. Parce que le doigt ne va pas où regarde l'œil.
Ok, fait que c'était vraiment, quand il a sorti l'iPhone, Steve Jobs a dit « meilleur des années ». Tu confirmes totalement.
Oui, je me rappelle, il avait fait une présentation assez comique,
oui,
disant que on ne va pas mettre un stylet, personne ne veut un stylet, ça se perd, on ne sait pas où on le met, et que le meilleur stylet, ça restait le doigt.
Et après ça, ben, il nous a vendu des stylos Pencil plusieurs années plus tard. Mais c'est pas pour les mêmes usages. C'est pas pour les mêmes. Alors, on était à homogénéité,
pas
cohérence. Cohérence, c'est quoi par rapport à l'ergonomie?
Alors, il faut, par exemple, quand vous créez un logiciel ou un site internet, il faut que, quelle que soit la page où vous êtes, elle garde exactement la même structure que toutes les autres. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le site horloger dont je parlais. C'est que vous aviez une page affichée en français. Un peu plus loin, elle basculait en espagnol, puis ça passait en anglais. Et après, on avait carrément la superposition des trois langues sur la même page. Donc si vous pensez un site internet ou un logiciel avec un bandeau en haut et un menu déroulant intégré, il faut que ce bandeau et ce menu déroulant ils se retrouvent absolument partout où que vous soyez sur le logiciel et accessible de n'importe où.
Et ça, c'est de l'ergonomie ou ce serait pas plus des éléments fonctionnels que les gens, pour lesquels les gens sont habitués? Et puis que, ben, vu que les gens sont habitués, on n'a pas envie de casser cette habitude-là. Puis on dit que ben, c'est de la cohérence et plus que de l'ergonomie, je pense.
Ça en fait partie.
Okay, ouais.
Ça en fait partie. On voit quand Apple a complètement changé nos usages. Vous aviez jusqu'à l'iPhone 8 le fait de devoir cliquer sur un bouton pour déverrouiller l'iPhone ou revenir au menu. Depuis l'iPhone 10, où on nous a imposé, justement, la navigation par geste. Je vois mes parents, ils sont passés là-dessus, ils étaient totalement largués. Ils ouvraient une application, ils ne savaient plus comment revenir. Là, ça a créé, justement, une incohérence et une rupture avec les anciens produits.
C'est fou.
J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, où je présentais si on passait d'un iPhone avec bouton d'accueil à un iPhone à partir de l'iPhone 10 et sans bouton d'accueil. J'ai fait une vidéo avec 15 gestes à mémoriser. Le multitâche, sortir d'une app, etc. Et elle a bien marché cette vidéo parce qu'en fait, c'est pas évident en effet quand on passe d'un appareil à l'autre, même quand on est plus jeune, hein, pas forcément traité ou quoi. Et Matt, je confirme ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que le tactile, c'est plus intuitif. Moi, j'ai eu beaucoup de clients que je formais qui déjà, en fait, le premier blocage, c'était la maîtrise de la souris ou du trackpad. C'était déjà un premier niveau compliqué.
Ouais.
Quand il fallait faire, par exemple, maintenir le clic et glisser, ça c'est une fois sur deux, ils n'y arrivaient pas quand ils devaient faire glisser une photo dans un mail par exemple. Ils n'y arrivaient pas parce qu'il fallait maintenir le clic, c'était un geste plus complexe à faire. Et si à la base il n'y a pas une bonne maîtrise de la souris ou du trackpad sur un Mac, c'est déjà très compliqué de faire le reste en fait. Et ça je l'ai vu chez beaucoup beaucoup de clients que je formais à domicile et le tactile, l'iPad justement a amené cette facilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu l'iPad, il y a plein de gens qui se sont mis à l'informatique, globalement, parce que c'était plus simple. Avec les années, ça c'est un peu compliqué, on en parlera
c'est
après,
ça.
Je pense.
C'est
mais
ça,
au début, là, le premier iPad, c'était... Mais vraiment, un enfant de 5 ans pouvait s'en servir alors qu'il n'avait jamais fait d'informatique, quoi.
Et ce que Sébastien dit, c'est que ses parents ont été largués de la minute que le bouton a disparu, qu'on a eu la barre, tu sais, pour fermer les applications. Et je sais pas, mais vous allez peut-être me confirmer... Année après année, je trouve que les applications mobiles d'Apple amènent des éléments fonctionnels d'usage intéressants, mais sur le point ergonomique, on dirait qu'on en perd année après année. Est-ce que je me trompe?
Oui et non.
Je trouve les interfaces à certains égards plus complexes avec, exemple, iOS 14, iOS 15. Exemple, la page d'accueil avec les complications. Exemple, il y a des trucs où au niveau de l'interface, je me dis, je suis un peu perdu. Et pourtant, je suis dans le domaine. J'ai une certaine littératie numérique. Et je trouve ça complexe. Alors, est-ce que on est en train de reperdre une certaine clientèle qu'on avait gagné au niveau technologique avec une ergonomie simple. Certes, l'OS était fermé, mais l'ergonomie était très simple. On a gagné beaucoup de personnes. Est-ce qu'on est en train de les perdre avec ces nombreuses mises à jour? Sébastien, tu dis oui et non.
Je pense pas qu'on va perdre cette clientèle-là pour plusieurs raisons. La principale, c'est iMessage. Il y a beaucoup de gens, je vois dans mon entourage, qui étaient pro-Android. Ils ont pu passer sur l'iPhone régulièrement. Ils ne reviendront pas en arrière. Tout simplement parce qu'il y a cette intuitivité à utiliser iMessage. Par exemple, on voit que la personne est en train de nous répondre, ce qu'on ne retrouve pas forcément partout. Vous avez un iPhone, vous envoyez un message à un Android, vous ne savez pas s'il a été lu, vous ne savez pas s'il a été reçu, vous ne voyez pas la personne vous répondre. Et ça, c'est un confort que beaucoup de gens ne peuvent pas perdre. Il y a aussi le fait qu'on voit beaucoup de choses, c'est que certes, dans les mises à jour, là je peux le montrer, hein, Apple a rajouté beaucoup de widgets, mais ce sont des complications, comme tu dis, Matt, mais qu'on n'est pas obligé de poser. C'est pas parce qu'ils sont disponibles qu'on va les déployer sur notre écran d'accueil. En gros, c'est laisser la possibilité aux utilisateurs qui l'ont demandé, puisque ça a été demandé depuis de nombreuses années, de pouvoir justement se créer un écran d'accueil qui leur ressemble. Moi, je vois sur ma page d'accueil, vous pouvez voir, j'ai l'icône de batterie. Si jamais je connecte mes appareils, je vais les voir apparaître. J'ai pas besoin de rajouter plusieurs étapes pour accéder à leur niveau de batterie. Et pour moi, c'est un gain de temps.
Ok.
Ouais, en fait, je pense que ce que Matt veut dire, c'est par exemple, si on prend l'application Note, c'est une application qui a énormément évolué ces dernières années. Et par exemple, il y a eu une période, je sais plus si c'était iOS 14, où en gros, toutes les options d'une Note étaient dans le menu partage. Et c'était devenu un menu à rallonge. Donc c'était vraiment trop lent pour trouver une fonctionnalité. C'était long, quoi. Du coup, après, ils ont intégré le fameux petit bouton option, donc c'est le cercle avec trois petits points. Ce bouton-là, on le retrouve quasiment dans toutes les apps aujourd'hui d'Apple. Et en gros, c'est l'équivalent d'un clic droit sur l'ordinateur. C'est vraiment le bouton option qui va nous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités. Et ils ont laissé dans le menu partage ce qui était vraiment lié au partage. Donc, il s'améliore. N'empêche que si on compare l'interface de Note au début et puis 10 ans plus tard, parce qu'on a même eu 10 ans d'évolution, 10 ou 10 ans, ouais, c'est forcé que ça évolue. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui continuent à utiliser leurs appareils comme ils le faisaient il y a 5 ans parce qu'en fait ils ont pas envie d'aller fouiller dans les nouveaux boutons, ils ont pas, ce qui n'empêche pas du coup qu'ils continuent à l'utiliser.
Bon là, il y a une fonctionnalité que j'adore utiliser, c'est le scanner dans Note. Ça c'est un gain de temps, mais phénoménal. Phénoménal. Je suis plus obligé de démarrer mon ordinateur pour pouvoir scanner un produit. Et ça apporte un peu plus d'autonomie à l'iPhone. On n'est plus totalement dépendant d'un ordinateur et d'une imprimante avec scanner.
D'ailleurs, ils l'ont intégré.
C'est une belle fonctionnalité.
Ils ont intégré le fait de scanner dans l'application fichier, dans l'application mail, dans l'application note, dans beaucoup d'apps. Maintenant, on a le petit logo appareil photo et on peut choisir donc numériser ou prendre une photo. Et c'est clair que moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage ou chez mes clients à l'époque qui disaient « Ah ben non, je vais pas remplacer mon imprimante scanner. Et puis l'imprimante, j'imprime presque plus. » Donc voilà, je pense que c'est vrai que même moi qui ai une très vieille imprimante 3 en 1 browser laser qui tient toujours le coup, donc je la garde hein, tant qu'elle fonctionne. Mais je me dis, en fait, je vais peut-être pas la remplacer parce que maintenant je scanne avec l'iPhone ou avec l'iPad et j'imprime presque plus. Donc certaines fonctionnalités comme ça, dérivées de l'appareil photo, en effet, vont faire évoluer nos usages et aussi, comme tu disais, nos besoins matériels. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle et c'est simple à utiliser. Au niveau de l'ergonomie, scanner là, avec l'outil, avec l'iPhone, c'est quand même simple à utiliser. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est assez ergonomique, quoi.
Mais je vais, je lâcherai pas le morceau par rapport aux OS mobiles, parce que quand je vois ma mère, par exemple, qui a commencé l'informatique pour vrai avec un iPad, quand elle accroche maintenant l'écran de par ses mains naturellement et que ça fait un mouvement qu'elle avait pas prévu, moi, je trouve personnellement que c'est un problème d'ergonomie. Est-ce que je me trompe?
C'est, on va dire, le défaut des OS mobiles. C'est parfois, on fait un geste qu'on n'avait pas prévu et ça a une répercussion sur l'écran. Mais ça reste ergonomique, tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle la gestion de l'erreur, c'est on a vu qu'on a fait une bêtise, mais on a aussi le retour. C'est-à-dire, vous avez touché l'écran, ça a bougé. Vous en êtes rendu compte.
Ah.
Imaginez, si vous ne pouvez pas vous en rendre compte, la personne est totalement perdue. Donc, il y a quand même encore un petit peu d'ergonomie dans ce manque d'ergonomie.
Oui, et puis en fait, ce n'est pas spécifique aux OS mobiles, c'est juste spécifique au tactile. Oui. Si
c'est
un
vrai,
jour on a un Mac tactile, on fera les mêmes erreurs. C'est
avec un trackpad, ouais, effectivement.
C'est plus lié à ça. Alors, moi, ce que j'ai toujours trouvé dommage au niveau de l'ergonomie sur l'iPhone, c'est qu'on a quand même attendu un paquet d'années pour pouvoir annuler. C'est quand même une base de l'informatique et on a dû attendre d'avoir secoué l'iPhone pour annuler quand on faisait un copier-coller ou un truc un peu plus compliqué avec du texte et tout. Combien de fois on a perdu du texte parce que on pouvait pas faire annuler. C'était, moi, ça m'a paru toujours dingue au niveau de l'interface d'utilisateur de pas avoir de bouton annuler.
Mais le gars dans le bureau du design qui a dit comment on va faire annuler, il y en a, il dit, bah, tu vas juste secouer. Ce gars-là, il travaille dans quelle équipe? C'est l'ergonomie, il travaille dans le marketing. Il travaille où, ce gars-là, pour dire?
Ben, aux écrans cassés.
Ouais. Ou alors, c'était juste une blague.
Ah, OK, puis c'est devenu vraiment...
Il a quelqu'un qui l'a propre
ouais, effectivement. Au niveau des critères d'ergonomie de Bastien et Scapin, on a parlé d'homogénéité, de cohérence, gestion des erreurs, adaptabilité, contrôle explicite, charge de travail, guidage. Il nous en reste deux pour lesquels ben, j'aimerais t'entendre.
Alors, du coup, il nous reste ce qu'on appelle la signifiance des codes et les dénominations. C'est, pour faire court, faire en sorte qu'un mot ou un logo ait la même signification pour tout le monde. Quand vous allez, par exemple, sur le menu pomme de l'iPhone ou sur le menu démarrer de Windows, vous savez ce que vous allez y trouver. Tout le monde va le savoir. Quand vous allez sur un site internet, je vous posais la question. Vous voyez le logo d'une map monde. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ça?
Audrey.
À choisir la langue.
Exactement.
Ah, moi, c'était de me connecter à Internet, mais je ne sais pas pourquoi.
Non, c'était déjà sur un site.
Ah ouais, OK, c'est beau. Ben, je me suis mélangé avec Internet Explorer et puis Netscape Communicator. Ah, ça trahit mon âge. Alors oui, c'est la langue.
C'est exactement
c'est
ça. C'est exactement ça. Mais il faut que ça soit pareil dans toutes les cultures. Il y a beaucoup de personnes qui créent des sites internet qui ont l'habitude justement d'utiliser le logo du site en tant que bouton de retour au menu d'origine. Mmh. Vous allez aussi avoir la possibilité, généralement c'est en haut à droite de l'écran, d'avoir les trois petites barres qui permettent de déployer le menu. Mais là, parfois, on peut avoir des incohérences. C'est-à-dire que vous cliquez à droite, mais le menu apparaît à gauche.
Oui.
Je l'ai vu passer, j'espère que les sites ont corrigé, mais ça peut créer une incohérence. Pourquoi, en fait, les menus sur les sites internet apparaissent à gauche? C'est parce que dans notre culture occidentale, on lit de gauche à droite, et que la première chose qu'on va regarder sur un logiciel, sur un site internet, c'est la partie en haut à gauche de l'écran. Ça doit être là que doit passer le message principal. Et le message principal, c'est « j'ai la possibilité de revenir à l'accueil ».
Et pourtant, oui, on m'a toujours dit qu'un menu sur la bande de droite était plus ergonomique parce qu'on était avec la main droite. Alors ça, on m'a toujours trompé. OK.
Le menu hamburger dont tu parles, il est de plus en plus... Alors, il est souvent en haut à droite. Enfin, moi, sur mon site, il est en haut à droite. Il y a le logo en haut à gauche qui permet de revenir à l'accueil. Et ce que j'ai remarqué aussi, vous allez peut-être me confirmer ces dernières années... Alors, c'est plutôt récent comme comportement, mais j'ai l'impression que les gens ne savent plus vraiment naviguer au sein d'un site. Ils font des filets. Et en gros, il faut que sur la page d'accueil, il y ait vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. Et même aller dans le menu hamburger, c'est devenu compliqué pour les gens parce qu'en fait, ils sont habitués à avoir de l'info en scrollant, en continu. Et moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens, alors j'ai corrigé, mais les gens me disaient « mais je trouve pas vos formations ». Donc, j'ai dû intégrer mes différentes formations sur la page d'accueil, chose que je n'avais pas fait. Parce qu'en fait, les gens, voilà, ils font défiler comme s'ils feuilletaient un journal. En fait, c'est un peu... Et il faut que la page d'accueil soit vraiment contienne en fait le maximum d'infos. Vous avez remarqué ça?
Ouais.
Maintenant que tu le dis, ce que j'ai remarqué le plus sur les sites, c'est qu'on a de moins en moins imbriqué les uns dans les autres où tu passes ta souris, que tu navigues, ce qui était une hérésie là, au niveau ergonomique, en tout cas UX, certainement.
Ouais.
Mais de descendre, je le remarque, mais avec mes parents sur leur tablette. Ils ne cherchent pas le menu, parce que c'est tactile. Alors, ils glissent jusqu'à temps qu'il y ait en bas.
C'est ça.
OK. Ouais, j'avais pas remarqué, effectivement.
Ouais. Oui, c'est une méthode de navigation qui est déformée par rapport à notre habitude de scroller, tout simplement, sur Facebook, sur Pinterest, sur Twitter. Et les gens déportent ça un petit peu partout et oublient que via les menus, ils ont des raccourcis d'accès et qui sont pour la plupart réfléchis. Je ne sais pas si tu l'as fait toi sur ton site Audrey, mais en moyenne, il faut que les personnes atteignent l'objectif en 5 à 7 étapes grand max. S'ils cherchent une formation en particulier,
oui,
il faut qu'ils sachent à l'avance le thème. Ou alors, avec la barre de recherche, ils tapent le thème.
Mm-hmm. Ouais, y a d'ailleurs une tendance assez lourde dans, la création de sites web. C'est de mettre de l'intelligence un peu à travers ça. L'intelligence artificielle, là, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui n'en est pas. Là, pour qu'il y ait des sites maintenant qui, en fonction de la navigation que tu as fait par le passé, les cookies que tu traînes, vont t'afficher directement ce qu'ils pensent, qui vont t'intéresser directement. Tu sais, y a des compagnies qui se spécialisent à faire des sites qui se modulent en fonction de visiteurs et non pas en fonction d'un usage, d'une expérience utilisateur que tu réfléchirais, toi, en tant que créateur de site. C'est fou.
Ah oui, c'est un algorithme comme sur Instagram ou TikTok, en fait. Ça s'imprègne de ton utilisation et...
C'est pas mal pensé. Ça permet d'avoir accès directement à ce qu'on peut potentiellement chercher, mais quelque part aussi, ça nous enferme dans cette boucle et on ne voit plus autre chose. Peut-être un petit problème de cohérence à trouver.
En terminant, dans les critères d'ergonomie, Sébastien, bon, ici au Québec, c'est la période des impôts. Alors, on parle beaucoup de comptabilité, mais toi, tu as écrit compatibilité. Alors, moi, j'ai fait une erreur là, présentement en lisant ça. La compatibilité par rapport à l'ergonomie, est-ce que c'est justement de s'adapter aux erreurs de ce que les gens pourraient faire, à être compatible, j'aimerais t'entendre là-dessus.
Alors, pour faire simple, la compatibilité, c'est est-ce que ces deux produits vont marcher ensemble?
Ok.
Et on le voit beaucoup, par exemple, avec les AirPods et un iPhone. Pourquoi c'est ultra ergonomique d'utiliser des AirPods avec un iPhone? C'est que vous n'avez pas à réfléchir à comment les connecter. Et derrière, ils vont être compatibles avec tous les produits qui ont votre identifiant de connecté.
C'est presque magique, mais...
C'est magique. C'est vous ouvrez, tac, vous avez le pop-up qui apparaît, connecté, et c'est fini, c'est connecté. A contrario d'il y a quelques années en arrière, où il fallait être sûr d'avoir le bon réseau Bluetooth, le bon niveau de compatibilité, d'aller fouiller dans les menus pour pouvoir le connecter, c'était l'horreur.
Moi, j'avais un casque Marshall de très bonne qualité. Mais en fait, à chaque fois que je voulais l'utiliser sur un appareil, il fallait que j'aille dans réglage Bluetooth connecté. Et clairement, ça a gâché l'expérience que j'avais de mon produit. Et quand j'ai eu mes AirPods 3, là, j'ouvre la boîte et que je vois le niveau de batterie de la boîte des AirPods et que ça me met AirPods connectés, je fais la magie d'Apple, elle est là. La technologie, elle devient magique quand ils font tout ce travail d'ergonomie derrière. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper passionnant comme sujet et hyper intéressant. C'est qu'Apple... Alors, je sais que d'autres compagnies font des choses aussi très bien. Moi, je suis spécialisée Apple, donc forcément, je pouvais parler de ce que je connais, mais je trouve qu'il y a une certaine sorte de magie chez Apple, une simplicité, une intuitivité avec les AirPods, par exemple, qu'on avait il y a très longtemps avec le Mac et qu'on a eu avec les premiers iPads, etc. Et j'espère, en fait, qu'Apple va continuer à intégrer un peu ce côté magique dans ses produits et son matériel.
C'est leur force, pour moi.
Est-ce que, en tant que spécialiste de l'ergonomie, ayant étudié là-dedans, tu remarques un changement? Je veux la poser parce que j'aime l'histoire de l'informatique, j'aime l'histoire d'Apple. Est-ce que tu vois une différence depuis que Johnny Ive est parti?
Pas vraiment. On voit que le design des produits suit un cycle et se réinvente. On voit quand les iPhone 6 sont sortis, on est passé d'un design carré bien cubique à un design arrondi qu'on a gardé pendant un certain cycle d'années. On l'a vu, 6, 6S, 7, jusqu'au 11 et 11 Pro. Puis on est revenu au cycle de l'iPhone 4 avec un design un peu plus cubique. En fait, j'ai l'impression qu'ils font du neuf avec de l'ancien, mais restylé. C'est un peu comme, si je peux les citer, c'est Porsche avec leur Carrera. Ils l'améliorent à chaque itération, mais sans vraiment toucher au design du fond.
Qu'on appelle de l'innovation incrémentale plutôt que de rupture.
Exactement. Et on voit que Apple ne crée pas forcément de rupture à chaque fois. Ils vont trancher d'une génération à l'autre, mais on va avoir l'impression de retrouver un design d'il y a quelques années en arrière. C'est le ressenti que j'ai eu à la présentation de l'iPhone 12. J'ai dit, waouh, ils nous ont ressorti le design de l'iPhone 4, 4S et 5.
Ils avaient déjà pris ce chemin-là avec les iPad Pro USB-C qui étaient aussi cubiques et ça nous a souvent fait penser aux iPhone 4, ce design-là. Et je pense que c'est après qu'ils l'ont appliqué à l'iPhone, mais c'est vrai que c'est... Bah, en même temps, à un moment, tu sais, je pense qu'il y a des gars chez Apple qui doivent dire, bon, alors comment on réinvente ce truc? Est-ce qu'on réinvente la route? Non, mais c'est vrai, tu vois, il y a un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent inventer de nouveau pour générer à nouveau des ventes, etc., et de l'envie, de la... Ouais. Enfin, c'est compliqué au bout d'une société qui a 20 ans, 30 ans. Waouh.
Ouais, bah on est dans une ère où il faut toujours vendre, faut toujours progresser, faut toujours et à un moment donné, je pense que c'est ça colle pas avec notre réalité d'adaptation, je dirais. Moi, je le vois, il y a un faible taux de littératie dans tous les domaines pour lesquels je travaille et numérique. Et je me dis, ben je les comprends. Je les comprends parce que il y a trop de nouveautés tout le temps, ce qui doit gâcher ou compromettre à certains égards l'adaptabilité des gens. On parlait des mises à jour tout à l'heure. Il y en a beaucoup de mises à jour, il y en a de plus en plus. Vous êtes, exemple, chez Apple, vous êtes chez Microsoft. Il y a des nouvelles applications qui arrivent année à année, après année. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est parce que c'est poussé par le fait qu'il faut toujours créer des choses nouvelles pour que les gens les achètent. Parce que si tu avais exactement le même iPhone depuis 5 ans, personne n'aurait changé, malheureusement. Alors, j'ai une dernière question au niveau de l'ergonomie. Est-ce que c'est de l'ergonomie? C'est quand même quelque chose qui est historiquement attaché à Apple, les coins ronds. Est-ce que c'est plus ergonomique ou c'est juste du design, les coins ronds chez Apple?
À mes yeux, c'est du design. Puisque vous voyez, je vais prendre l'exemple du Mac. Là, moi, je suis sur un MacBook Pro 15 pouces de 2015 où je vais avoir une partie arrondie, donc toute la partie extérieure à l'ordinateur. Mais là où je pose mes poignets, ça va être des bords tranchants. Ouais. Donc, moi, pour moi, c'est un élément de design. S'ils avaient vraiment voulu faire quelque chose d'ergonomique, il y aurait eu les emplacements prévus pour poser les paumes de mes mains et que je puisse me reposer dessus.
Alors, c'est vraiment de design, cet élément-là, de retrouver tout le temps des coins ronds. Ou quand tu mets ta fenêtre dans un coin sur un Mac, ben, t'as un petit coin qui est vide et qui sert à rien.
Oui, et d'ailleurs, en parlant de MacBook Pro et de MacBook et tout, moi, j'ai toujours eu du mal à utiliser un Mac portable toute la journée parce que soit je suis très sensible à l'électricité statique, mais le métal, ça a vraiment toujours été un problème pour moi, surtout quand il était en charge. J'avais vraiment l'impression de sentir des micros, pas des charges électriques quand même, mais je pense que je sais pas, je transpire pas spécialement, mais ces ordinateurs en métal, c'est quand même pour moi un problème. Est-ce que je suis la seule?
Non, je sens bien le champ magnétique. Oui, je le sens aussi.
Ça expliquerait pourquoi Microsoft a pris une tendance d'une espèce de tissu de revêtement qu'ils mettent sur toute leur surface. Mmh. Moi, au niveau des Mac, mon préféré, c'est le R, mais ce format-là, vous voyez, biseauté. Parce que les pros, ils sont tranchants, comme tu viens de le dire. Et à certains égards, je trouve ça pas agréable à taper avec mes grosses paluches. Alors, c'est encore une fois, c'est toute question de personne par rapport à ces éléments-là. Audrey, est-ce qu'on aurait fait le tour de tes questionnements par rapport ou de tes interrogations par rapport à l'ergonomie pour cet épisode?
Bah, écoute, pour cet épisode, oui, je pense qu'on va en parler des heures parce que c'est quand même des produits qu'on utilise toute la journée. Donc forcément, il faut qu'ils se fondent en nous presque, qu'ils s'intègrent parfaitement à nos usages et à nos différentes morphologies, etc., comme on disait tout à l'heure. Donc oui, bah, écoute, je suis super contente d'avoir parlé de ce sujet-là et qu'on ait été spécialisé dans l'ergonomie. C'était vraiment intéressant. Merci.
Mais de rien, je vous en prie.
Et c'est pas terminé parce qu'on passe dans la période, capsule, le moment de pensée, de réflexion. Et Sébastien, tu as mis un élément de réflexion, de pensée, peut-être plus de choix personnel à nous présenter.
Oui, donc c'est la série C qui est disponible sur Apple TV+, qui met en scène l'humanité dans une ère post-apocalyptique où l'intégralité de l'humanité a perdu la vue, donc et réapprend à utiliser son environnement, mais sans pouvoir le voir. Mmh. Et vient la naissance de deux enfants, deux jumeaux, qui eux peuvent voir ce monde extérieur et qui vont finir par être traqués, justement, car ils sont vus comme les messies ou les personnes à abattre. Je vais pas spoiler la série, vous avez 3 saisons. Mais c'est un regard sur une des possibilités que pourrait être le futur de l'humanité. Je suis pas pessimiste, mais quand on voit le réchauffement climatique, ce que ça donne à réflexion.
Ouais, il faut que je la regarde cette série, j'ai pas encore regardé.
Non, moi non plus. Fait que tu me donnes à la fois envie et pas, puis ça va faire partie de ma réflexion. Vous allez voir un petit peu plus tard, j'ai décidé de changer ma proposition pour cet épisode-ci. Audrey, que nous as-tu préparé pour cet épisode-là?
Alors, je viens de finir la série Dear Edward, pareil, sur Apple TV+. Alors, le titre français est pourri, ça s'appelle... Enfin, beaucoup moins intéressant, ça s'appelle N'oublie pas de vivre. Alors, soit on a les titres en anglais, imprononçables, ou soit on a des titres en français. Dear Edward, en fait, c'est vraiment le titre... Enfin, Cher Edward, c'est vraiment le titre qu'ils auraient dû garder en français. C'est une série... sur un garçon de 12 ans qui est le seul survivant d'un crash aérien. Il perd sa famille dans ce crash aérien. Alors, c'est dès le premier épisode, hein, donc je spoil pas. Et en gros, on voit comment il essaye d'avancer avec tout ce qu'il a vécu et avec les proches avec les gens qui ont perdu quelqu'un dans ce crash. Et en fait, ce qui est génial, c'est l'humanité qui se dégage de cette série et du fait qu'on est des êtres très fragiles, mais très forts à la fois. Et du coup, c'est une saison, alors vu la fin, je pense qu'il y aura une saison 2, et c'est avec Taylor Schilling. C'est une actrice qui avait joué dans Orange is the New Black, je sais pas si vous l'avez entendu parler. Voilà, c'est Piper, Orange is the New Black, donc c'est une actrice que je trouve naturelle et qui joue bien, enfin je trouve que c'est une bonne actrice. Donc Dear Edward ou N'oublie pas de vivre sur Apple TV+, il y a une saison, ça vient d'arriver, et c'est vraiment une belle, belle série.
Excellent. Je l'ai ajouté à mon catalogue de choses à regarder et je me rends compte, petite note personnelle, qu'il y a de plus en plus de choix sur la plateforme d'Apple TV+, qui m'énervent. C'est qu'ils me foutent des épisodes une fois par semaine et on dirait la télé traditionnelle ou on dirait que c'est fait exprès pour que je reste abonné. Bref.
Ah bon, tu crois?
C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je vais rester un peu dans la thématique de Sébastien avec la télésérie, mais encore une fois, Apple TV+. Hein, on est une émission qui parle d'Apple, on va parler d'Apple TV+. Et c'est la première fois que j'aime pas une des productions d'Apple. Pas sous l'axe artistique, pas sous l'axe du casting, pas sous l'axe du montage des histoires, sous l'axe qu'on dirait que j'ai plus envie de voir ça. Ça s'appelle « Extrapolation ». C'est une télésérie qui, pour chaque épisode, va vous montrer une période d'une année, une décennie future. Alors, vous avez dans la saison 1, 2047, épisode 1, vous avez 2037, épisode 2, 2046, après ça, vous avez 2047, 2059. Il y a un truc là-dedans qui m'agace, c'est que c'est assez triste. De voir comment on pourrait être l'avenir. À certains égards, on pourrait penser que ça va vraiment être ça. Alors, pourquoi tu trouves ça triste, Mathieu? Parce que ça va être ça. On dirait que je suis oui, vas-y.
Est-ce que tu as remarqué que toutes les séries ou tous les films qui se passent dans le futur sont négatifs?
Ouais.
C'est des trucs effrayants. C'est l'humanité... Non, t'as une exception?
Wally, ça va bien à la fin?
Ouais, il y en a un qui est bien.
Lequel?
Il y en a un qui est bien, c'est Retour vers le futur.
Ah oui.
Je vois la plaque derrière. Retour vers le futur, ça se passe en 1985, c'est pas du tout futuriste.
Le 2.
Oui, le retour
vers
le
futur. Quand ils vont dans le futur. Moi, je suis arrivé en 2015 et sont où les voitures volantes?
Effectivement.
On les attend tous.
Alors, extrapolation, c'est, vous l'aurez compris, ce qui pourrait arriver dans le monde. Et les premiers épisodes nous dressent un portrait plutôt catastrophique. Le premier épisode nous parle de surdévelopper les ressources et de les exploiter d'une mauvaise manière. Le deuxième continue sur le même air d'aller, qu'on perd des baleines, qu'on perd des animaux de plus en plus sur la Terre, et ainsi de suite. Et c'est, à un moment donné, c'est trop. Je suis envahi de ce type de nouvelles-là. Et je trouve que pour moi, pour ma santé mentale, j'ai décidé d'arrêter cette saison-là, cet épisode-là, cette série-là. C'est juste trop compliqué. Mais c'est bien fait. Puis il y a des bons acteurs. Mais je j'ai plus envie. Montrez-moi un peu de bonheur et de joie, et parce que là, c'est trop.
Ouais, je comprends tout à fait. Hein. Moi, je suis à fond dans les comédies en ce moment parce que je me dis, allez, j'ai envie de passer un moment positif pendant 2 heures et j'ai envie de, voilà, de voir des belles choses. Je comprends tout à fait ton ressenti.
Et tu vois, on regardait, non, on essayait de trouver une série avec Marlène l'autre soir, puis on était sur Apple Télé, puis Ted Lasso, il nous fout un épisode par semaine. Alors après ça, qu'est-ce que tu fais le lundi ou les jours suivants? C'est quoi que t'as comme série quand t'as tout fini, les Affaires joyeuses? Et tu vois, dans les téléséries les plus populaires, numéro 1, comédie, 2, comédie, 3, comédie, suspense 4, 5, comédie, c'est pas les drames que les gens ont envie de voir, je pense, sur la plateforme. Ils ont envie de voir des comédies. En même temps, je comprends l'idée d'Apple d'avoir une diversité, parce que sinon, ça serait un comedy club, un truc comme ça, qu'on voudrait peut-être pas. Fait que bref, je me console en sachant que ma comédie musicale et ça n'a aucun lien avec avec d'autres choix. Schmigadoun va arriver en saison 2 et j'ai hâte de voir ça parce que ça me fait bien rire la saison 1.
Je pense qu'on a tous.
Si je peux te faire une suggestion.
Oui.
Je peux te faire une petite suggestion. Je sais pas si tu as regardé Fondation sur Apple TV+, qui est tiré des livres d'Isaac Asimov. C'est génial. C'est génial. C'est une belle adaptation.
Ouais, effectivement. Il y a... J'ai pas trouvé de mauvaise série sur Apple TV+. Ils arrivent quand même à avoir du contenu très qualitatif. Et c'est chouette quand on paye le forfait d'avoir beaucoup des films aussi, des affaires pour enfants. Fait que, bref, je recommande Apple TV+, surtout que c'est pas très cher comparé à Netflix qui arrête pas d'augmenter. On est sur la fin. Alors, Sébastien, où les gens peuvent te joindre pour continuer à parler d'ergonomie ou pour parler de montres, parce qu'on n'a pas abordé le sujet, mais tu es dans l'horlogerie.
C'est ça. Eh bien, ils peuvent me trouver à Seb 13 12 045.
C'est pas un handle name très ergonomique, moi, je trouve. En tout cas, c'est ton choix. C'est ton choix.
Non, non.
C'est sur Twitter.
C'est ça.
Okay.
Du côté d'Audrey, on n'en a pas parlé. Tu as fait de plus en plus des nouvelles formations, ton site et ainsi de suite. C'est le moment maintenant de plugger toutes tes belles créations et tes nombreuses vidéos. Et d'ailleurs, j'ai bien ri quand j'ai vu ta dernière vidéo où tu montrais tes... sur ton Apple Watch, là, tous les prix que tu gagnes. Là. Comment on appelle ça sur l'Apple Watch?
Ouais, les trophées. Ouais, j'ai fait une vidéo. Alors,
enfin.
Je savais que je ferais pas des milliers de vues avec ce sujet, mais j'adore tellement ça qu'il fallait que je transmette mon enthousiasme. J'ai fait une vidéo assez, je crois que c'est 10 ou 12 minutes sur les trophées de l'Apple Watch qui aident à bouger et tout. Non, mais tu rigoles, mais moi, je trouve ça génial. Et je vois les gens dans mon entourage qui, bon, allez, je vais faire un tour parce que ce soir, il y a un trophée à gagner et ça force les gens à se bouger. C'est très bien. Et tout le monde y prend goût. Et ce soir, alors on enregistre, on est jeudi, je viens de publier sur ma chaîne YouTube une vidéo un peu plus perso où je parle, alors ça dure 1 heure parce que j'ai fait une foire aux questions, où j'ai demandé aux gens qui me suivent s'ils avaient des questions sur mon parcours, mon expérience professionnelle, quelles études j'ai faites, etc. pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Donc forcément, vu que j'ai eu une vie un peu compliquée, j'ai pas eu un parcours hyper lisse, donc ça prend un peu de temps, et il y avait pas mal de questions super intéressantes, si vous voulez voir sur ma chaîne YouTube cette vidéo, et si vous voulez en savoir vraiment plus sur moi, parce que là je parle vraiment plus de mon expérience et de comment on fait pour, pour gagner sa vie avec en vendant des formations ou en étant spécialisé dans un domaine, ça pourrait vous intéresser. Sinon, vous pouvez me suivre comme d'habitude sur Twitter, @AudreyCoulot, ou sur Mastodon, pareil, et sur mon site de formation, appleavecaudrey.fr. Et toi, Matt?
Moi, profduweb.com, vous retrouverez tous les liens qui vont bien pour me rejoindre. Et la chaîne d'Audrey, effectivement, je riais parce que tous les trophées. Tu en avais parlé au dernier épisode, à quel point t'aimais les trophées, t'aimais les collectionner, même si c'était numérique. Et c'est juste pour ça que je riais, parce que quand je l'ai vu passer, je fais « Bon, elle nous l'avait annoncé, elle l'a fait. » Alors bravo, t'es cohérente, c'est ça qu'on peut, on pourra jamais t'en retirer, ça. Alors, n'oubliez pas non plus de faire un tour sur applediff.com ben, pour soit nous laisser un message, nous contacter et... pour le gros bouton jaune qui nous aide, ben finalement bien maintenant à continuer à vous produire 2 épisodes par mois et c'est la promesse qu'on s'est tenue et c'est la promesse qu'on va tenir pour le prochain épisode et on se retrouve dans 2 semaines. Merci tout le monde. Salut Sébastien.
Merci Sébastien.
Salut.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao ciao.